Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 125 du podcast Révèle ton potentiel. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode interview. Interview que j'ai réalisé avec Julien, l'expert en vente et en closing. Il forme aujourd'hui les commerciaux, les équipes de dirigeants à être plus performants dans leur technique de vente et dans leur technique aussi de closing. Il n'utilise pas tellement le mot closing, il préfère le mot vente. Comment apprendre à aimer la vente? Il va nous parler de ça tout au long de l'épisode de podcast, puisque nous avons très vite parlé de la croyance autour de la vente, de « je n'aime pas la vente, je n'aime pas vendre ». Il se passe tout un tas de choses autour de cette croyance-là. Il faut aller creuser ce qui se passe chez la personne qui nous donne cette croyance, cette objection. Pourquoi on n'aime pas la vente? Quelle est l'origine de cette croyance, à quoi cela renvoie. Bref, on a parlé vraiment de tout ça. On a aussi retracé, bien évidemment, vous vous en doutez, son parcours, comment il en est arrivé là. Et il nous a donné vraiment des tips concrets pour passer à l'action, pour être plus performant. Et on a vraiment échangé de façon authentique et comme si on était tous les deux en appel sur ce sujet-là. Je lui ai partagé aussi mes questionnements à moi, personnel, autour de ce sujet-là et notamment des appels de closing quand j'ai l'occasion d'en faire. J'espère que cet épisode vous plaira. Vous pouvez nous laisser un petit mot sur les réseaux sociaux pour nous dire comment vous avez trouvé cet épisode. Je vous laisse avec l'interview de Julien et je vous souhaite une belle écoute. Bienvenue dans le podcast qui t'aide à révéler pleinement ton potentiel. Je suis Fanny Lesprit, je suis aujourd'hui coach, conférencière et formatrice dans la prise de parole en public. Je n'ai pas toujours fait ça puisque j'étais une ancienne timide et je n'avais pas confiance en moi. J'ai décidé de faire de mes faiblesses finalement une force pour devenir comédienne, professeure de théâtre, coach et formatrice. Ma mission aujourd'hui est d'aider les femmes ambitieuses qui ont un projet, une envie d'entreprendre, à développer leur activité, à révéler toute leur puissance en osant parler d'elles et de leurs offres. Chaque semaine, seule ou avec les personnalités qui m'inspirent, j'aborde des thèmes autour du développement personnel, de l'entrepreneuriat et de la prise de parole. Si le podcast te plaît, je t'invite à le noter 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Cela m'aiderait beaucoup à faire connaître le podcast. Je te souhaite une très belle écoute. Hello Julien.
Salut Fanny.
Comment vas-tu?
Très très bien, je suis content d'être avec toi sur ce podcast. Merci pour l'invitation.
Eh bien écoute, bienvenue sur Révèle ton potentiel. Tu es le bienvenu ici. Merci d'avoir répondu à la positive pour enregistrer ce podcast avec moi. C'est un plaisir de t'avoir. Tu sais, la toute première question que je pose à mes invités, puisque moi je fais du pitch dans la vie de tous les jours, c'est est-ce que tu peux te pitcher et faire l'exercice en 30 secondes? Qui es-tu et que fais-tu?
J'accompagne les dirigeants et chefs d'entreprise à monter en compétences leurs commerciaux. Donc typiquement, on vient me voir quand les dirigeants ont l'impression que leurs commerciaux sont des chèvres. C'est là où on fait appel à moi en général.
Ok, très clair. On va revenir sur le sujet bien évidemment. Merci beaucoup. J'ai quelques petites questions pour apprendre à te connaître un peu plus aussi au début du podcast. C'est juste des questions qui sortent un peu de nulle part, hors contexte. Mais par exemple, si tu gagnais 10 millions d'euros là, maintenant, tout de suite, et tu les reçois sur ton compte en banque personnelle, comment tu répartirais cet argent? Qu'est-ce que tu ferais avec?
La première chose que je ferais, c'est d'engager quelqu'un qui m'aiderait à les faire fructifier. Ça, c'est la première chose, pour pas les flamber. Deuxième, investissement immobilier pour moi et ensuite pour la famille. Et je pense que je les mettrai aussi dans le business pour voilà, développer l'entreprise. Et puis, comme je l'ai dit au début, je pense que c'est cohérent de les faire fructifier.
Ok, trop bien. Donc, plutôt dans le business, tu ferais pas des achats perso ou un IMO ou un truc genre où tu te dis « ouais, j'ai cette somme-là, vas-y, je vais faire un gros kiff ».
Ouais, le premier investissement, c'est avec le mec qui m'aide à les fructifier. Le deuxième, c'est un investissement immo, ouais, pour la maison.
Ok, cool. Cool, ok, merci pour ça. Deuxième question, est-ce que tu as eu des mentors ou des personnes qui t'ont inspiré à tes débuts, surtout quand tu t'es lancé, des gens que tu connais ou que tu as appris à connaître sur le tas, mais qui te dis « waouh, si eux, ils l'ont fait, bah moi, je peux le faire aussi ». Est-ce qu'il y a des gens comme ça qui reviennent?
Ouais, il y a eu Will Smith quand j'avais 17 ans, qui a été un gros mentor tant sur le plan de dev perso et sur le plan d'affirmation de soi. En fait, je sortais du lycée en fait, Et la période a été très compliquée, donc j'étais un peu en perte de repères. Et du coup, en fait, j'ai accroché avec Will Smith. Enfin, j'ai accroché avec Will Smith en regardant en tout cas le personnage et les films et les séries. Hein, j'ai pas eu la chance de le rencontrer encore, en tout cas. Donc du coup, il m'a bien drivé en tant que mentor. Et ensuite, il y a eu mon premier responsable, enfin, ouais, on va dire mon premier responsable d'agence, qui était un ancien formateur commercial et qui a pris la tête de l'agence dans laquelle j'étais moi commercial. Et ce mec-là, en fait, il a été mon mentor. Ouais, bon, il l'est encore d'ailleurs un petit peu. Il a été toute ma période de CDI, tant sur le plan développement des skills en vente, tant sur le plan développement des skills personnels et vraiment travailler en fait ce côté-là. Il m'a vraiment beaucoup inspiré. Il m'inspire encore beaucoup aujourd'hui. Et ensuite, bah ensuite, je me suis lancé à mon compte et j'ai pas trouvé de personne sur lequel je me suis dit bah maintenant j'ai envie de la ressembler. Au contraire, j'essaie de regarder un petit peu ce qui m'inspire plutôt sur la partie discours, vision, plutôt que les personnes en elles-mêmes. Je pense que ça a été un bon changement aussi, ouais.
Ok, trop cool. Donc Will Smith est aussi un mentor un peu plus dans ta sphère pro-perso, mais que tu connais toi et qui t'a inspiré pour faire ce que tu fais aussi aujourd'hui. Ok, très bien. Justement, est-ce que tu peux revenir sur ton parcours en fait? Comment t'en es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui et pourquoi d'ailleurs? Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé à ton compte, tu as osé passer le cap et te dire je peux avoir une autre vie qui m'attend que rester dans le modèle dans lequel je suis depuis des années?
Alors j'espère que tu as du temps et il y a plusieurs questions dans la question, mais je vais essayer de ne pas trop m'égarer pour te répondre. Ce qui a toujours été important pour moi, ça a été en fait c'est parti comme beaucoup d'un pain, donc d'une douleur qui a été je comprends pas en fait pourquoi j'arrive pas, moi la mienne en tout cas ça a été je comprends pas pourquoi j'arrive pas à m'intégrer à des groupes alors que j'ai l'impression qu'il y a des entre guillemets des personnes qui avaient peut-être de l'extérieur moins de valeur en tout cas que ce que moi je jugeais avoir des valeurs et qui eux arrivaient à se développer. Je comprends pas en fait, j'ai l'impression de tout bien faire et pourquoi j'arrive pas à m'intégrer. Donc en fait c'est parti de là et de ce problème-là, je me suis passionné en fait pour le dev perso et surtout la psychologie comportementale. En gros ça a été comment je fais pour plaire et m'intégrer. Donc naturellement je suis allé sur la séduction. Parce que ça a été le premier, en tout cas, le premier focus sur lequel on pouvait à la fois travailler, enfin, je pouvais et je voulais travailler pour avoir ensuite du résultat. Et de là, tu comprends mieux, en fait, les dynamiques sociales. Donc, je suis vraiment passionné pour ça. Comment tu parles à un groupe, comment tu intègres ou tu arrives à aborder une personne alors que, bah, elle est au milieu d'autres personnes, etc. Ensuite, j'ai eu mon CDI. Donc, les deux sont un peu goupillés, séduction et vente. Et au final, bah, c'est la même chose. J'en parle à chaque fois sur mes posts, mes coachings ou peu importe, la vente, c'est de la séduction. Et la séduction, c'est de la vente. Donc de là, ensuite, je me suis vraiment trouvé une appétence depuis, enfin, quand j'ai rencontré mon mentor, une appétence vraiment pour la vente particulière où tu prends soin de l'échange et de la dynamique relationnelle qu'il y a avec l'autre. Et tu te rends compte, bien évidemment, il y a plein de trucs, mais tu te rends compte vraiment que tout est une question de compréhension des dynamiques sociales. Quand je capte l'autre, en fait, bah, j'arrive vraiment à identifier, entre guillemets, ce qu'il a envie d'entendre et comment, en fait, je peux me pluguer, moi, pour être plus facilement soit accepté ou faire en sorte que je passe mieux. Donc, il y a eu ça. Et puis ensuite, j'ai eu des très bons résultats en mélangeant les deux en vente. Donc, bah, j'ai été meilleur commercial pendant 4 ans de suite avec plus de 7 millions de chiffres d'affaires sur le poste que je faisais. J'ai été formateur. J'ai été commercial plus aussi responsable d'agence. En fait, ce qui m'a fait switcher à mon compte, ça a été que j'arrivais à un palier dans mes compétences et dans ce que je voulais faire, et je me suis rendu compte que ma boîte ne m'offrait pas, en tout cas, les perspectives que moi je voulais, que ce soit en termes financiers comme en termes aussi d'épanouissement sur mon poste. Et au lieu de faire ma victime pendant des années, je me suis dit, bah, tu sais quoi, au lieu d'attendre de la boîte qu'elle te donne ce que tu as envie de faire, bah, va te le créer. Et donc c'est là où en fait j'ai quitté mon CDI, je me suis mis à mon compte. Et ensuite le dernier déclic qu'il y a eu qui a appuyé ce que je fais aujourd'hui, donc l'accompagnement sur la partie vente et commerciale, ça a été deux réunions dans des réunions pour chefs d'entreprise. Voilà, donc c'est des réunions spécifiques en petit comité, en présentiel, que tu que ou sur laquelle se réunissent plusieurs chefs d'entreprise, où tu dois pitcher, d'ailleurs, ça, voilà, comme ce que tu m'as fait faire au début, tu dois pitcher ton activité en 45 secondes pour donner envie aux autres de te recommander. Et en fait, les gens étaient tellement catastrophiques sur leur manière de se présenter, et ça donnait vraiment pas envie, en fait. Et moi, à côté, où j'avais, bah, du coup, plusieurs années déjà de commercial, en fait, tu te rends compte, tu te dis, putain, mais c'est pas possible, en fait, que tu vendes ton activité comme ça. En fait, tu peux pas, c'est pas possible, quoi. Et je me suis dit, bah, je sais faire un truc, ça a l'air aussi d'aider les gens, bah, je vais en profiter. Et de là, ensuite, bah, ma carrière d'entrepreneur dans la vente a commencé à se faire.
Ok, bah ça me fait plaisir que tu le dises. Après, bon, moi je prends plus de pincettes pour le dire. Je suis pas aussi trash en disant tu peux pas te présenter de cette manière.
Ah ouais, si, il faut leur dire.
Mais parfois, j'aimerais bien en effet le communiquer comme ça et le dire. Ok, c'est très clair. Et du coup, t'étais dans quel domaine quand t'étais dans commercial? T'étais dans quel secteur?
Crédit et assurance.
Ok, d'accord. Donc, à un moment donné, s'est fait ce switch et tu t'es dit, ok, il faut que je monte en compétences. Le seul moyen, c'est aussi d'être entrepreneur. Ok, et tu as commencé par quoi? C'était quoi ton business model à accompagner des gens en one-one? Comment tu as commencé à tes débuts et comment tu as évolué aujourd'hui?
Dès le début, en fait, j'ai commencé à proposer des petits ateliers. Donc, moi, j'habite à Bordeaux et en fait, c'était des ateliers en présentiel pour entrepreneurs. Et en fait, l'idée de ces petits ateliers, je me rappelle, le premier atelier, il était à 20 euros. Pour une heure et demie, donc voilà, tous les coachs business en PLS, et en gros, il y avait une dizaine de personnes sur ces ateliers-là, et puis l'idée, c'était vraiment d'aider ces gens, en fait, à développer leur business. Donc en gros, c'est comme si je m'étais lancé business coach, mais en fait, ce que je faisais, c'était simplement d'avant.
Ouais, ok, et aujourd'hui, du coup, tu fonctionnes comment? Enfin, comment t'as eu une évolution quand même au milieu?
Et aujourd'hui, en fait, j'accompagne plus maintenant des dirigeants qui ont des équipes commerciales. Et donc en fait je forme les équipes commerciales, notamment sur la partie entretien de vente, persuasion et amélioration des taux de closing, et je les aide aussi à mettre en place toute la partie structure process pour faire en sorte que en fait la machine soit bien huilée et performe correctement.
Trop bien, on va en parler. Ok, top. Et c'est qui tes clients le plus aujourd'hui? Tu travailles avec quel type de clients le plus?
Jusqu'à présent, en tout cas, c'était plutôt des organismes de formation ou des personnes qui vendaient, qui vendaient de la formation en ligne ou des prestations de services et qui ont plutôt cette expertise technique, mais vraiment commerciale, pas du tout.
Ok, donc en fait, et des coachs aussi.
Et des coachs aussi, ouais.
Qui ont une équipe et qui ont des équipes, quoi, de closers. T'appelles ça des closers, toi? Oui.
On appelle ça des closers, ouais.
Ok. Je te demande ça parce que, bon, après, j'aimerais bien aussi te demander un truc parce que ça fait un peu peut-être débat aussi, tu vois. Souvent, maintenant, on a accès à un closer pour faire un appel de vente et non plus au coach lui-même. Est-ce que c'est quoi ta vision par rapport à ça en fait? T'arrives, t'as tellement une grosse notoriété ou une grosse envie de développer ta boîte que tu prends des gens pour faire ça. Mais est-ce que tu trouves pas qu'il faut atteindre quand même un certain palier ou une certaine visibilité pour se dire ok, à partir de maintenant je vais prendre des closers? Qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Ou des commerciaux, hein, ou des gens qui sont faits pour ça et c'est plus moi qui vais le faire?
Il y a le problème le plus courant que je rencontre, en fait, c'est vraiment la délégation commerciale trop rapide, vraiment précoce et immature, en fait. C'est-à-dire, il y a deux gros profils qu'on peut identifier. Il va y avoir le premier profil. Et combien de fois j'ai été contacté pour ça? Ça me fait péter les plombs, ça. C'est en fait, tu as le coach qui va te contacter et qui va te dire, est-ce que tu as quelqu'un à me recommander pour faire du closing? Et en gros, est-ce que tu as un closer? J'ai pas de problème. Quel est le volume de lead aujourd'hui que tu as? Bah, il n'y a pas de volume de lead, en fait. Je veux justement que la personne aille me chercher des leads. Alors déjà, ça, c'est un premier truc. Tu n'embauches pas quelqu'un quand tu n'as pas de lead. Donc ça répond déjà en partie à ta question. C'est tu ne peux pas recruter quelqu'un pour vendre ce que tu fais quand, au début, ton levier de différenciation numéro un, c'est toi. Tu ne peux pas, en fait, mettre à la place de ce que tu es censé véhiculer quelqu'un d'autre que toi. Si tu n'as pas un volume de prospects qui vient sur tes sessions stratégiques. Le minimum, pour moi, c'est si vous n'avez pas au moins 20 appels de vente par semaine, ne pensez même pas à recruter. Prenez-les, en fait. Pourquoi? Parce que, un, c'est peut-être que votre produit n'est pas market fit, ou ce que vous proposez, c'est pas adapté au marché, qu'il faut encore travailler et aller chercher de la demande. Et, et deux, en fait, vous allez donner de l'argent à quelqu'un, alors que vous-même, en fait, vous êtes aussi un peu en pénurie déjà ou en recherche de cash. Donc, faites votre cash et ensuite, pensez à recruter un sales qui va faire votre taf, quoi. Ça, c'est le plus important. Et dernier point aussi, ça, c'est surtout pour les coachs qui veulent recruter. Tu recrutes pas quelqu'un pour t'aider à vendre quand toi-même, en fait, tu ne sais pas vendre. Comment tu peux monter en compétences, aider, former, manager quelqu'un à ce que ta spécificité à toi quand toi-même, tu ne l'as pas fait? C'est pas possible, ça.
Ok, d'accord. Ah ouais, ça, c'est très clair. Et en plus, c'est très bien. Tu dis 20 appels de vente. Tant qu'on n'a pas atteint ça, ça sert à rien de non plus déléguer trop cette partie. Et tu trouves pas que, parce que parfois, ce que je vois, c'est que ça peut entretenir un peu le mystère autour du coach ou du mentor ou de cette personne-là en mode, ben, en fait, on a accès à lui que quand on est dans le programme, en fait, tu vois, et non pas avant. Et avant, on peut même pas lui parler. On sait même pas, tu vois. Donc, tu trouves pas que ça donne un effet quand même un peu, enfin, je sais pas, alléchant, un peu mystère, un peu attraction, ou ça peut carrément faire l'inverse? Qu'est-ce que tu en penses, toi?
Ça peut faire l'inverse dans le sens où tu as les prospects qui vont être déçus. Ah, bah, j'aurais bien aimé que ça soit X au téléphone.
Bah ouais.
Et bon, c'est un peu dommage. Donc, bon, ça retombe un peu. Pour autant, ensuite, donc, c'est là où c'est important. Si le closer ou le sales fait le taf correctement, en fait, derrière, l'entretien de vente va justement susciter en fait la curiosité et donner encore plus envie à la personne normalement de rentrer dans le programme. Mais mettre un closer pour activer ce biais-là, bah, faut en redescendre un peu dans l'ego et arrêter un peu son bullshit, quoi.
Ok, yes, ça fait sens. Bon, les amis, si vous n'avez pas compris tous les termes que Julien vient d'utiliser du genre product market fit, déjà on en a parlé avec Maëva dans le dernier podcast. Bon, vous, voilà, il faut faire un point sur un peu tous ces termes aussi, mais justement, Julien, juste pour là, l'audience, est-ce que tu peux redéfinir ce qu'est un closer et un setter, ou alors les commerciaux que toi tu formes, comment tu définis ce métier-là? C'est quoi sa fonction vraiment de base?
Alors pour le product market fit, ma définition à moi, c'est... Déjà, si vous n'avez pas un produit qui est adapté ou un service qui ne correspond pas à ce que les gens attendent, pour faire simple, ouais, vous allez avoir ça. Du mal. Donc ça ne sera jamais un problème de vente, ça sera déjà un problème d'offre. Donc, si votre offre elle n'est pas adaptée à ce que votre marché cible veut, c'est vous qui allez essayer de pousser une offre qui selon vous est pertinente, mais pour le marché ne l'est pas. Et donc là il y a rien de pire, vous allez faire des dégâts. Donc ça c'est pour le produit market fit. Ensuite, pour quand je dis sales, c'est le mot anglais pour dire commerciaux. Voilà. Quand oui. Un closer, c'est un commercial en freelance qui va réceptionner les appels entrants. Si vous n'avez pas d'appel entrant, un closer ne sert à rien. Un setter, c'est quelqu'un qui va, en tout cas, je vais parler là pour la cible de l'info dans le marché de l'infoprenariat, parce qu'après sur différents segments, ouais. Différentes industries, c'est pas le même mot. En tout cas, pour l'infoprenariat, un setter, c'est quelqu'un qui va exploiter la liste de contacts que vous avez déjà. Ça peut être des DM sur Instagram, par exemple, ça peut être un groupe Facebook, ça peut être une liste d'inscrits à un webinar. À partir du moment où vous avez suscité de la demande et de l'attraction, traction, T-R-A-C-T-I-O-N, pas de l'attraction, de l'attraction, en fait, le setter va exploiter ces éléments-là.
Ok, donc très bien. Merci beaucoup pour les définitions. Comme ça, on est sûr qu'on part aussi sur de bonnes bases. Donc maintenant, quand toi, tu formes un closer, c'est... Enfin, de toute façon, tu as le métier pour former les équipes. Mais qu'est-ce qui fait déjà qu'on part sur de bonnes bases quand on est un bon closer, ou alors qu'on a envie de le devenir, ou un bon coach qui arrive à bien vendre aussi la posture que l'on a, tu vois?
Le premier point pour tous ceux qui écoutent ton podcast, c'est je voudrais surtout pas qu'il y ait des coachs qui écoutent et qui se disent « bon, ben moi, je suis pas closer, donc ça m'intéresse pas ». C'est la pire erreur. Une bonne vente, et donc entre guillemets un bon closing, mais tu m'entendras de moins en moins utiliser ce mot-là parce que je suis plus aligné sur certaines choses, donc on parlera de vente. Une okay. bonne vente, pour moi, que vous soyez coach, closer, commercial, sales, tout ce que vous voulez, ça doit respecter... Plusieurs points qui sont indispensables. Donc, si vous êtes coach et que vous écoutez le podcast de Fanny, vous êtes concerné tout aussi bien qu'un commercial. Il y a trois points, qui sont hyper importants. Donc, il y a le mindset, c'est l'état d'esprit dans lequel on va mettre les croyances limitantes. Il va y avoir les sales skills, donc les compétences en vente. Désolé pour tous les anglicismes que je te lâche dans le podcast. Et ensuite, il y aura les soft skills, donc c'est les compétences, ce qu'on appelle en français les compétences douces, et qui sont plus liées à toute cette partie un peu intelligence émotionnelle, etc. État d'esprit, je ne peux pas vendre si je n'aime pas la vente déjà. Si je pars du principe que mes prospects ne veulent surtout pas qu'on leur vende. J'ai rien compris déjà au principe de base de la vente. Je ne peux pas en fait ne pas aimer ce qui fait le flux sanguin de mon business. Donc déjà, il faut vraiment se décoincer avec ça. Ensuite, les gens n'aiment pas, c'est pas que les gens n'aiment pas la vente, c'est que les gens n'aiment pas en fait les commerciaux douteux, gominés et tout ce qu'on veut. C'est ça en fait qu'ils n'aiment pas. Parce qu'on a popularisé la vente autour de techniques et de méthodes qui sont passées, désuètes et qui n'ont jamais été les vraies méthodes que les bons commerciaux utilisaient. Quand tu vas dans n'importe quelle entreprise, même ton commerçant du coin, tu remarqueras que le meilleur vendeur, c'est justement en fait un commerçant qui fait sans, entre guillemets, qui vend sans vendre. Mais vendre sans vendre, c'est une technique de vente. Bon, ça ne s'improvise pas comme ça. Tu vois ? Donc ça, il faut vraiment se mettre à l'aise avec ça. Donc l'état d'esprit. Ensuite, il y a toutes les croyances limitantes, notamment autour du prix. Je pense à tous les coachs que je peux avoir en coaching qui me disent « Putain, mais parler d'argent, pour moi, ça me fait bégayer et laisse tomber. » Ça, pareil, si vous n'êtes pas à l'aise avec le prix et parler d'argent, il va y avoir un gros sujet. Et ensuite, je dirais un point que je parle surtout en coaching, mais peut-être pas assez en public, c'est toute la notion de jeu psychologique. Et pour moi, il y a énormément de choses qui sont en lien avec et la PNL et l'analyse transactionnelle. Pourquoi ? Parce que surtout les coachs qui ne sont pas dans le mode « j'aime vendre » vont rentrer dans une posture un peu de… vont rentrer surtout dans le triangle de Cartman, donc persécuteur, victime et sauveur. Et en fait, comment ils vont faire ça ? Je veux absolument pas vendre, donc je vais être très sympa. Et en fait, je vais faire tout pour être, entre guillemets, apporter de l'éducation, aider mon prospect, etc., donc sauveur. Et en fait, quand le prospect ne va pas leur acheter ou va mettre peut-être des objections, eux vont tourner et vont passer en victime. Et en fait, on va rentrer dans un triangle comme ça, là, pour ceux qui connaissent le triangle de Cartman, qui est vraiment... pour moi, en fait, on ne le conscientise pas assez dans la vente, mais il est incroyable. Et ensuite, l'analyse transactionnelle, dans le sens où les différentes postures, notamment la posture d'enfant, où le coach va basculer en fait d'adulte à soit parent quand il va vouloir éduquer ou autre, et ensuite à enfant quand en fait le prospect ne va pas comprendre ou va lui envoyer des objections, etc. Et donc en fait, il y a une espèce de jeu psychologique tout au long d'une vente qui est à prendre en compte. Et si la personne n'a pas travaillé sur ses blessures à soi, n'a pas travaillé sur sa confiance en soi, son estime de soi, etc., ben en fait, l'entretien sera complètement biaisé. Typiquement, je ne pourrais pas parler du prix si j'ai peur de conflit. Parce qu'en fait, les commerciaux, déjà les commerciaux de base ont peur de ça. Donc imagine des coachs qui ne sont pas dans la vente et qui ont eux ont en plus la peur de vendre. Donc peur du conflit plus peur de vendre égale laisse tomber, quoi. Catastrophique. Peur du conflit. Si en fait j'ai peur du conflit, je ne vais pas me permettre de, entre guillemets, confronter ou challenger mon prospect. Je vais tout faire pour éviter le conflit. Parce que je pense que conflit égale perte de la vente. Il n'y a rien de pire que ça, en fait. Et donc ça, tu vois, ça fait partie des soft skills. La gestion du conflit, la capacité à gérer ses émotions, l'intelligence émotionnelle, on parle d'intelligence commerciale. Moi, je travaille beaucoup sur mes accompagnements, sur le développement du leadership, tant sur l'entrepreneur, le coach ou le commercial, le développement du leadership commercial, mais aussi toute la partie assertivité. Assertivité, c'est quoi ? C'est la capacité à communiquer sur ses besoins tout en respectant les besoins des autres. Et c'est surtout, entre guillemets, parler avec des couilles, quoi. Comme ça. C'est en gros d'avoir l'audace, le courage de dire les choses qui, en fait, on a l'impression qu'elles vont tout faire capoter. Au contraire, c'est ces choses-là, en fait, qui vont faire accélérer les ventes. Et ensuite, bah, la partie compétences commerciales, donc techniques de vente. Pour moi, quand vous maîtrisez le mindset, quand vous avez développé les bons soft skills, les techniques de vente, elles représentent plus que 20% en fait, de votre vente. Parce que ça va être les bonnes questions, ça va être anticiper les objections, etc. Mais tout, pour moi, une bonne vente, elle se fait d'abord en fait dans ce que je dégage, dans la posture, dans ma certitude, et ensuite, bien évidemment, sur comment je fais pour quand même dérouler un bon entretien en respectant certains checkpoints importants.
Ok, c'est trop, trop ouf tout ce que tu as dit. Déjà, là, on a vachement de valeur. Et en fait, je te rejoins à 100 000% et je suis très contente d'avoir posé cette question. En fait, c'est pareil pour moi avec le pitch, tu vois. Je fais une grosse partie dans toutes mes séminaires, dans toutes mes masterclass sur le mindset à avoir. Parce que ça sert à rien d'avoir un super pitch comme toi à la fin. Finalement, ça représente que 20% du travail, la structure du pitch. Tu peux avoir un super méga pitch, mais par contre, si t'as pas tout le mindset qui va avec ou comment l'incarner oralement, ton pitch, il va faire flop. Donc vraiment, je pense que c'est mets ça dans beaucoup de choses aussi. C'est pareil pour ton offre, etc. Donc, je suis vraiment très, très contente que tu aies dit ça. Maintenant, tu nous parles de comment dégommer une croyance. C'est la question que j'ai envie de te poser. Comment dégommer la croyance, justement? Tu vas dire, on prend celle que tu viens de dire. Je n'aime pas la vente. T'as quelqu'un qui te dit, j'aime pas la vente, j'aime pas vendre. Alors, c'est vrai que tu nous as dit au début, du genre, ouais, ben, à un moment donné, faut que t'aies du chiffre d'affaires dans ton entreprise aussi. Mais tu sais, moi, c'est l'objection que j'ai très, très souvent aussi chez mes clientes qui n'aiment pas se vendre, parler d'elles, parler de leurs services, se pitcher, se mettre en avant. Comment tu fais, toi, pour réajuster cette croyance, la dégommer, la changer, la transformer? Est-ce que tu passes par du coaching, de la PNL?
Du coup, c'est la question, c'est comment je traite la croyance.
Ouais.
Déjà, c'est le pourquoi. Genre, c'est quoi l'origine? Et là, il y a deux niveaux. Il y a l'origine un peu, j'allais dire culturelle, mais c'est genre que tout le monde en fait en voit, donc c'est pas le discours de la personne. Bah, genre, les vendeurs, c'est tous des escrocs, moi, je veux surtout pas arnaquer, blablabla. Donc, bon, déjà, je fais déballer toute la couche là, de bullshit de la personne. Et ensuite, je vais vraiment questionner la personne sur, en fait, à quoi ça te renvoie. Ça représente quoi, en fait, pour toi, la vente? Qu'est-ce qui te dérange là-dedans, à toi, personnellement? Et donc, ensuite, c'est plus, là, le ressenti interne de la personne que cette personne-là va essayer d'éviter. D'accord? Bien souvent, c'est, je veux pas que mes clients me voient comme ça, j'ai peur que, etc. Donc, c'est souvent des peurs. Tu vas chercher la peur. Okay? Ensuite, c'est de la dépolarisation. C'est-à-dire transformer un paradigme négatif en opportunité de croissance.
Okay.
Donc là, du coup, bien sûr, c'est comme dans la vente, c'est le principe d'une bonne vente, c'est que ça vienne de la personne et pas que ça soit toi qui pousse. D'ailleurs, c'est ça la différence entre un bon et un mauvais vendeur. Un mauvais vendeur va appliquer de la pression externe et un bon vendeur va faire en sorte que ce soit le prospect qui se choisisse, qui choisisse de lui-même. Et en gros, tu vas simplement, tu vas poser les bonnes questions. Tu vas apporter aussi, toi, ton point de vue et ton expertise sur le sujet, et tu viens en fait juste faire un travail de collaboration avec lui. Bah, est-ce que tu penses que ce point de vue-là, par exemple, il pourrait être pertinent? Qu'est-ce que tu penses de ce point de vue-là? Qu'est-ce que tu penses de ci? Qu'est-ce que tu penses de ça? Ok. Maintenant, si tu es avec moi en coaching, c'est que tu as quand même envie de te sortir de là. Donc, tu as quand même fait un premier pas en avant et dans le compte en banque pour dire, bon, j'ai envie de régler ce problème-là. Donc, parti de ce principe-là, on va faire ensuite quelque chose qui est essentiel dans le coaching, c'est le passage à l'action. C'est bien la théorie et te changer les paradigmes, mais si en fait, quand tu passes sur le terrain, tu fais rien, ça ne sert à rien en fait. Donc, je réfléchis avec la personne, en accord avec elle, bien sûr. C'est quoi les micro-steps, les micro-actions que tu peux faire tout de suite ou demain pour challenger le fait que la vente t'aime pas ça. Okay? Et donc, bien sûr, je vais lui donner des pistes. Typiquement, pour la majorité des coachs, moi, j'ai eu beaucoup de coachs sportifs, donc ça, c'est un avantage parce qu'ils ont quand même des clients assez régulièrement sous les yeux, mais ça ne va pas les exploiter. Et en gros, c'est, écoute, la prochaine fois que tu vas en salle et que tu es en train d'échanger avec quelqu'un, je veux que tu dises ça et je veux que tu fasses comme ça. Est-ce que tu peux juste essayer demain avec au moins 3 personnes? Oui, il n'y a pas de souci. Trop bien. Tu me fais un feedback. Et le soir, ça revient. Incroyable, Julien. Incroyable. Tu reviens, je ne sais pas ce qu'elle m'a dit. Et donc, en fait, le passage à l'action appuyé et aidé est vraiment associé. Donc, d'abord, tu viens travailler la croyance, changer le paradigme, et deux, tu le fais passer à l'action.
Ah ouais, ok, trop pertinent. Bon, j'ai un millier de questions, mais je vais essayer de choisir celles qui sont les plus pertinentes pour l'audience. Alors, tu as parlé de arriver à vendre sans vendre. Clairement, toi, comment tu enseignes ça et comment tu fais ça?
L'anti-vente, c'est vraiment hyper important. Je pense que c'est une des techniques les plus efficaces que je connaisse. Et l'anti-vente, c'est quoi? C'est, écoute, Fanny, vraiment, je te remercie pour tout ce que tu viens de me partager. Mais il y a un point qui me dérange, c'est que tu m'as dit qu'aujourd'hui, ce n'était pas forcément une priorité et qu'en plus, ton conjoint, par exemple, n'était pas d'accord avec le fait d'investir dans cet accompagnement-là. Et par expérience, les personnes qui me disent que ce n'est pas une priorité et dont le conjoint en fait est pas d'accord, ça va rarement au bout. Et honnêtement, je préfère qu'on arrête là. Si vraiment, genre, c'est pas une priorité, que t'as pas envie d'aller de l'avant, j'ai pas envie de te faire perdre du temps et qu'on parte sur quelque chose. Et en fait, derrière, on sait très bien que ça sera soit bloqué par le conjoint, soit bloqué parce que il y a d'autres choses qui sont plus prioritaires à ce moment-là. Autant qu'on s'appelle quand c'est prioritaire.
Ah ouais.
Et donc, du coup, en fait, je mets zéro pression sur j'ai vraiment pas envie de vendre. Et en fait, je mets du focus sur, c'est important pour moi que tu fasses les choses au bon moment pour toi. Et quitte à ce que moi, en fait, je perde ma vente, le message qui est envoyé, c'est « il a vraiment pas envie de me vendre, quoi. » Il y a eu un call aussi qui m'avait marqué. Alors, moi, de mon côté, après, j'en ai plein avec d'autres closers, mais parce qu'en fait, j'ai accompagné cette personne-là juste après. Et en fait, il me dit, sur l'appel, il était très nonchalant et il avait un non-verbal et une tonalité qui te laissait penser que, en fait, c'était pas le bon moment ou il n'était pas prêt, tu vois. Ça faisait 15 minutes déjà qu'on échangeait. En général, moi, ma fenêtre de tir pour dire si oui ou non on va plus loin sur l'appel, c'est 15-20 minutes. Si au bout de 15-20 minutes, je sens pas la personne, je fais de l'anti-vente et je vais arrêter, entre guillemets, je vais mettre un curseur sur l'entretien en challengeant en fait la personne. Si on veut aller plus loin, juste envoie-moi des signaux. 15-20 minutes, sinon je vais pas plus loin. Et en gros, donc je fais mon anti-vente et du coup, il y a un déclic de son côté. Et revirement total en fait de l'échange, en fait c'est lui-même qui est venu se vendre ensuite. Il me dit non mais en fait moi je pose ces questions mais c'est hyper important pour moi, puis franchement avec ce que tu proposes ça a l'air trop bien, mais j'ai vraiment, c'est juste que j'ai peur en fait, je veux savoir si c'est bon ou moi. Et genre en fait il balance toutes les peurs et les objections juste parce que toi t'as entre guillemets relâché l'accord, tu vois, tu as dit tu sais quoi, c'est pas le bon moment, c'est pas grave en fait, et voilà. Et
c'est ouf.
Et du coup c'est vraiment en fait quand c'est bien fait, genre c'est pas quand c'est de l'anti-vente pushy, vraiment mal faite et malsaine, où la personne va dire, bah écoutez, là, vous n'avez pas le budget, donc en fait, vous savez quoi, revenez me voir quand vous avez de l'argent. Genre là, il n'y a rien de pire, tu ne respectes pas ton client, tu vois, c'est pas cohérent. Par contre, de l'anti-vente sur des bons points, ça peut être un point peut-être, je ne sais pas, plus technique, tu vois, ça va être, je ne sais pas, pour le pitch, ça pourrait être... moi, je pense qu'en fait, c'est... le marketing, en fait, fait tout. Et c'est sûr qu'un pitch c'est bien, mais si un marketing en amont est pas cohérent, blablabla, blablabla. En fait, tu vas travailler sur la croyance que le marketing est plus important que le pitch. Donc là, tu vas faire de l'anti-vente. Écoutez, je suis content que vous me partagiez ça. Après, je sais pas si vous avez vu, mais moi je suis vraiment spécialisé sur le pitch. Je peux vous partager en fait l'approche que j'ai sur en quoi c'est plus important pour vous et comment ça peut vous apporter des résultats. Mais si aujourd'hui vous êtes plutôt fermé à cette idée-là, je pense que d'aller sur un accompagnement marketing c'est mieux pour vous.
Ouais, je vois, attends, je vois, c'est hyper pertinent. Et attends, j'ai une question, parce que souvent, ce qu'on dit, c'est l'inverse. Enfin, pas l'inverse, pas faire de l'anti-vente. Mais par exemple, quand la personne, elle t'a sorti toutes ses objections et qu'au final, elle veut pas ou qu'elle veut réfléchir ou que blablabla, blablabla. Souvent, il y en a qui font aussi, qui continuent le pushing, tu vois, genre qui renvoient un message. Des fois, on dit, c'est bien de renvoyer un message deux jours après, t'en es où dans ta réflexion, nanana, tu m'as dit que tu réfléchissais. Tu sais, de mettre aussi une deadline, genre, je t'ai savé la place pour 48 heures. Est-ce que tu veux prendre le spot qui reste, etc. Enfin, est-ce que c'est bon de faire ça ou est-ce que toi, tu vas carrément dans ce truc de anti-vente, entre guillemets, bon, la personne n'est pas prête, elle reviendra quand elle est prête, et lui bien faire le comprendre sur le moment et ne plus la recontacter, vraiment la laisser tranquille.
Là, il y a plusieurs choses dans ce que tu partages. Le premier point sur lequel je rebondis juste rapidement, c'est pour moi, en fait, les objections, elles doivent être dégommées dans la découverte client et non pas après avoir pitché. T'es censé avoir répondu aux objections en amont. Et en fait, tu ne réponds pas à des objections, tu réponds et tu traites des croyances limitantes.
Donc, ouais, c'est ça.
Une croyance limitante se transformera en objection. Tout ça, c'est important. Ensuite, pour le follow-up, donc ça, c'est un vrai enjeu, c'est un vrai enjeu commercial pour tout le monde, même pour les solopreneurs et les freelances, mais aussi pour les dirigeants, etc. C'est un vrai enjeu. Ton follow-up, t'es censé le faire sur de la valeur, pas sur une relance genre « est-ce que t'as pris ta décision ?» Classique comme ça, c'est vraiment pas ouf. Par contre, tu es censé avoir terminé ton entretien en te disant, par exemple, sur une échelle de 1 à 3, cette personne-là, je la mets à 0. Donc elle, vraiment, je la sens pas qualifiée. Typiquement, je vais pas faire de follow-up. Ou si je fais un follow-up, ça va être la semaine suivante, en mode vraiment détente et juste un peu rien à perdre, quoi, tu vois. Par contre, si je sens que c'est un lead qui est qualifié pour moi, qui est qualifié sur la demande également, et que de son côté, mes indicateurs de qualité, entre guillemets, sont réunis, là, je vais ne pas hésiter à relancer. Salut Fanny, on a échangé ensemble hier sur le pitch et du coup, on a échangé sur mon programme d'accompagnement. Tiens, je te sors une vidéo d'une personne qui a fait un super pitch. En fait, quand j'ai vu la vidéo, j'ai tout de suite pensé à toi. Tu me diras ce que t'en penses et puis n'hésite pas à revenir vers moi aussi par rapport à ce qu'on s'était dit.
Ah ouais.
Tu vois, genre, ça, pour moi, c'est un bon follow-up parce que je t'apporte de la valeur. Je t'apporte de la valeur et je suis pas relou, en fait, dans ma manière d'insister. Et en plus, de trois même, je te montre que j'ai écouté ce que tu m'avais dit et que je me rappelle de mon entretien. Tu vois.
Ouais, Mais on dit souvent, quand c'est mort, quoi. Genre, la personne, tu peux revenir après, genre, ça y est, soit elle est trop réchauffée, entre guillemets, tu vois, elle a eu le temps de revenir dans ses croyances, de revenir dans ses habitudes et de passer à autre chose. Et donc, c'est un peu dead dans tous les cas. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que c'est quand même possible d'arriver à travailler avec une personne? Elle a peut-être un déclic un autre jour, ou si vraiment on s'est loupé, c'est mort pour le reste, quoi.
En fait, un follow-up et donc une relance, ou même un après-call est hyper dépendant de l'entretien en lui-même. Si mon
Ouais.
entretien est bâclé, en fait, c'est bien de dire c'est mort, mais qu'est-ce qui te fait dire que c'est mort? Et en fait, si c'est, enfin, c'est pas sur le follow-up qu'il faut réagir, en fait, c'est sur l'entretien
Ouais.
en lui-même, tu vois, qu'il faut régler le problème. Donc, c'est souvent là, en fait, que ça coince, quoi.
Ok. Bon, désolée, je vais pas te prendre trop de temps non plus parce qu'on a bien avancé dans le podcast. Et par exemple, dire à quelqu'un, parce que moi, c'est souvent mon cas, tu vois, des fois, j'ai des coups de cœur en appel de vente, je suis en mode, je veux trop, trop bosser avec toi, quoi. Je veux développer ton entreprise, je veux t'aider à pitcher, le projet, il est canon. Est-ce que tu vois, et parfois la personne, bah, te dit oui, mais non, financièrement, nanana, elle te sort tous les objections, et toi, tu as vraiment envie de bosser avec elle. Comment tu fais pour, tu vois, rattraper, enfin, pas rattraper, mais genre lui faire comprendre que ça pourrait matcher de ouf, que les résultats vont être incroyables? Parce que, alors là, moi, j'y mets peut-être un peu trop d'émotionnel, tu vas me dire, mais je suis peut-être pas assez détachée de ça, mais c'est vrai que j'ai tellement envie de bosser avec la personne que je vais être déçue. Ou alors, tu vois, je peux prendre pour acquis souvent le closing parce qu'il y a tellement eu un bon feeling. Comment
Ça
tu fais, toi?
arrive. Ça arrive souvent parce que surtout quand tu n'es pas dans une dynamique ou dans une industrie commerciale où en fait tu es vraiment dans de la prestation de service, etc. C'est là où en fait l'émotionnel est le plus parlant. Et tu peux mettre la meilleure intention que tu veux. Derrière, il y aura toujours un biais quand même du côté du prospect en mode, par exemple, je ne sais pas si elle m'a dit ça pour me vendre. Tu vois, tu
Ah.
auras toujours, en fait, tu auras toujours un peu ce biais-là parce qu'en fait, tu es sur un entretien de vente. Donc, tu auras beau dire tout ce que tu veux, tu es quand même sur un entretien où tu sais qu'à la fin, tu vas demander la CB.
Ouais.
Ensuite, le problème de l'émotionnel, c'est de se faire piéger à son propre jeu parce que du coup, tu vas, enfin, en tout cas, les personnes vont s'emporter dans leur vision avec ce prospect-là. En fait, eux vont déjà être partis et vont plus entendre, en fait, les objections et les croyances limitantes ou les freins du prospect. Ce qui veut dire que là où en fait c'est hyper clair pour toi que tu vas pouvoir lui dégommer toutes ses peurs et toute sa situation actuelle et l'emmener vraiment là et que toi t'en es sûr et certain, ben, en fait tu vas le faire d'une manière peut-être hyper volontaire, positive, mais de l'autre côté, si t'as pas fait ce travail entre guillemets d'écoute, de compréhension, de reformulation et d'ajuster en fait ton message sur sa problématique et ses peurs, pas au bon endroit, parce qu'il y a différents niveaux de peur, ben, en fait ça sera pas perçu et entendu de la bonne manière. Il y a, pour moi, il y a vraiment plusieurs manières il y a plusieurs manières en fait d'appuyer sur des impacts. Tu peux avoir les impacts qui sont le plus courant, qui sont je fais de la vente sur de la douleur et en gros je vais aller pointer du doigt les problématiques, les impacts négatifs, etc. Ou alors, ça c'est moins fait, voire c'est mal fait parce que c'est souvent trop dans l'émotionnel justement. C'est le closing par la vision et en gros, je match tellement ta situation actuelle avec la vision vers laquelle je vais t'emporter qu'en fait, tu n'as juste qu'une envie de dire, mais tiens, vas-y, prends ma CB en fait, et viens, on y va tout de suite, quoi. Et s'il n'y a pas ça, c'est que la vision, elle n'a pas été assez bonne et qu'on l'a fait d'un point de vue vraiment avec notre cœur à nous, mais on ne l'a pas fait en fait rentrer dans le monde de l'autre personne. Et ça, c'est le problème de l'émotionnel. Si on se fait emporter trop vite et qu'on n'a pas pris les bons leviers, les bons freins, ben, du coup, en fait, on n'arrive pas à matcher notre vision avec sa vision à lui.
Je suis d'accord, ouais, ok, trop clair, trop cool. Merci beaucoup, Julien, pour tous ces partages. Je sais que tu es retenu par le temps, mais en tout cas, je trouve que là, on a eu une espèce de mini masterclass hyper full valeur pertinente, pleine de pépites là, direct. Juste une petite question pour toi personnelle, et après, je te pose encore une question pour terminer le podcast. Quels sont tes objectifs à toi en termes de développement, de structure? T'en es où? Est-ce que tu as une équipe avec toi? Comment tu vois les choses pour 2024? C'est vraiment toi en tant qu'entrepreneur, c'est quoi tes objectifs et ta vision?
En fait, je suis passé par plusieurs phases. Donc là, tu me prends en février 2024 où je suis justement en train de retravailler le business model et la manière dont j'ai envie d'avancer. J'ai été solo, j'ai eu une équipe et là aujourd'hui, je suis en phase de reconquête de la vision. Parce que ce qui compte pour moi, c'est vraiment cette passion de la vente. et de montrer en fait à quel point la vente elle est transformatrice tant pour un business, tant pour une personne. Donc j'ai vraiment envie de porter ce message-là. Je ne sais pas encore comment 2024 va tourner. J'ai plusieurs verticales aujourd'hui que j'adresse en termes de business. Je ne saurais pas vraiment te répondre. Je sais que là, à ce jour, je suis plus ma vision que le comment. Je suis plus sur le pourquoi. Et puis ensuite, je pense que le comment viendra se préciser là au long de cette année. Puis je serais ravi de te faire un retour sur ça en fin d'année.
Ouais, carrément. Et juste, si là, tu as un tout petit comment à nous dire, c'est comment on peut bosser avec toi si jamais on a envie de te contacter. Comment tu travailles aujourd'hui ?
Alors, je ne sais pas si le podcast sortira à temps, mais au cas où, j'ai une conférence le 5 mars au Grand Rex de Paris où j'explique justement plusieurs approches et comment, un, déjà, réapprendre à aimer la vente et deux, surtout, comment bien vendre. Et ensuite, vous pouvez me contacter sur Instagram et LinkedIn où je suis très actif sur ces réseaux-là.
D'accord, ok, merci. Dernière question pour toi, Julien, et je te laisse revenir à tes occupations. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tu as révélé pleinement ton potentiel ? Alors, tu nous as un peu répondu à cette question en travaillant ta vision en 2024 peut-être, mais est-ce que tu penses que toi, tu es à ton plein potentiel aujourd'hui ?
Absolument pas. Je suis absolument pas à mon plein potentiel parce que je pensais avoir compris comment je fonctionnais et puis au final, à chaque fois que j'ai la conviction de ça, en fait, je me rends compte que c'est pas le cas, je suis biaisé, j'ai pas la bonne approche et y a d'autres choses encore à travailler. C'est un travail, j'ai l'impression, peut-être infini. Sans fin, ouais, infini, parce que voilà, je pense qu'on a tous ce potentiel-là, mais le potentiel vers lequel on tend dépend de la phase de vie dans laquelle on est, de la vision dans laquelle on se projette. Oui. Est-ce qu'on est capable de challenger sa vision, de la remettre en perspective, Donc, bon, je dirais que mon défaut, c'est toujours de me remettre en question. C'est aussi mon avantage parce que j'apprends de plus en plus à me connaître, identifier mes schémas, mais c'est un travail assez fastidieux et faites-vous accompagner pour ça, c'est très important.
Très bien, écoute, merci beaucoup pour ton temps et pour toutes ces réponses et je te dis à très bientôt.
Merci Fanny.
Si ce podcast t'a plu, je t'invite à t'abonner ou à mettre 5 étoiles ou un like et tu peux aussi le partager à tes amis. Tu peux me retrouver sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Fanny l'Esprit Coach. Si tu as des questions ou des sujets que tu aimerais que j'aborde, n'hésite pas à m'écrire. À très vite dans un tout nouveau podcast.